liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Eh bien le bonjour cher auditeur, c'est Terry Rock qui vous accueille pour cette émission Source sur Radio Campus Nantes 2.1 sur les ondes de Bruxelles. Eh bien nous avons pas mal de petits sujets à ce jour, entre autres on va parler de Audacity, de comment on réutilise certains matériels, d'agenda, de pas mal de petits trucs. Et avant que tous nos membres soient présents dans le studio, je vous propose un petit morceau de musique, comme ça, ça permet de détendre chacun d'entre nous. Thank you. Et c'était Battlestar de Skyguys. Eh bien, bonjour Peter, bonjour Nico, bonjour Thiers.
Salut.
Comment vous allez en cette belle journée de vendredi?
Moi, je me suis levé à 5h du matin.
C'est bizarre, ton micro marche pas.
C'est marrant, je m'entends bizarrement. Ouais, c'est tout bizarre, tout est bizarre. Tout, on s'en fout.
Tout part en couille dans ce moment.
On se croirait sur un vieux bateau.
C'est comme s'il n'y avait qu'un micro dans le studio. Allô? Allô, chers auditeurs, chers auditrices. Quelqu'un peut venir souder des fils?
Sortez-nous de cette geôle.
Comment se fait-il? Lequel fonctionne? C'est pas celui-ci?
Ah ouais, c'est un de mien aussi.
Le tien aussi? Ah toi t'as de la chance.
Ouais, je sais pas.
Je crois que la régie est en train de travailler sur votre problème de micro.
Pop. Ah, nous avons notre bien-aimé Jean-François qui vient nous aider.
Dankeschön.
Merci beaucoup, JF.
Eh ben voilà, donc vous avez tous des belles voix et du coup je vous repose la question de comment est-ce que vous n'allez pas?
Non mais moi je trouve que pour l'instant c'est chouette. Hein. Ça bouge beaucoup, il y a plein de trucs qui se passent.
Oui, moi aussi, c'est chouette. Je me sens comme un clavier utilisé, bien pressé, mais avec délicatesse, par des petits doigts agiles. Je sais pas, un truc comme ça.
Écrit du beau texte.
Non, ça va bien.
Et j'invite ceux qui désirent s'exprimer aussi avec nous, que nous avons mumble.src.brussels qui est disponible, où nous sommes présents. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, mumble.src.brussels.
Alors, mumble, ça s'écrit M-U-M-B-L-E, pour ceux qui ne seront pas très anglophones. mumble.src.brussels, parce que voilà, Brussels, c'est un nom de, une extension de nom de domaine anglophonisé, parce que je ne sais pas s'il y a point Bruxelles.
Je ne suis pas sûr.
Mais en tout cas, voilà. Et welcome en ligne.
Et je vous propose comme premier sujet que je vais vous apporter, c'est une extension de Firefox qui s'appelle Tab Center Reborn, qui en gros permet de, au lieu d'avoir vos onglets visibles au-dessus, de les avoir sur la gauche. C'est un peu moins complexe que TriTab, que moi personnellement j'utilise, mais qui permet aussi de un peu visualiser différemment ces onglets. Et comme certains ont beaucoup d'onglets ouverts en même temps,
ouais,
ça peut aider à voir ça autrement.
Ouais, mais combien par exemple? Parce que moi effectivement avant j'avais jamais vu ça, mais j'ai déjà vu des trucs, je sais pas moi, il y a 50, 60 onglets ouverts.
Oh, mais ça...
ça va, c'est une petite journée ça.
Une petite journée. Ouais, non mais je précise parce qu'à mon avis il y a peut-être des gens qui se rendent même pas compte comment c'est possible d'avoir beaucoup d'onglets ouverts.
Oui, bah, c'est vrai que c'est un des avantages de TriStyle Tab, mais qui a été refondu, si j'ai bien compris, par Tab Center Reborn.
Non, c'est un autre projet. Hein.
C'est un autre projet.
Il est plus simple et plus accessible.
Plus simple et plus accessible, d'accord. Mais bon, le TriStyle Tab, c'est quand même une assez vieille extension de Firefox. Le gros avantage, bah, évidemment, c'est que si on met des onglets dans Firefox comme c'est par défaut, c'est des onglets qui s'affichent sur le dessus de la fenêtre et qui occupent la largeur donc de l'écran. Et souvent, les onglets, ben, en font, je sais pas moi, on va dire, chaque onglet pourrait faire, on va dire, 10% comme ça de l'espace écran disponible. Et donc, évidemment, quand on arrive à 10 onglets, ben, le 11e, on le voit plus trop, ou alors tous les autres se raccourcissent et on voit plus trop non plus on va dire, les titres des pages, et bon, voilà, la largeur de l'écran et le fait que chaque onglet occupe 10% de la largeur, ben, ça limite un peu. Par contre, avec TriStyle Tab ou un onglet, une extension qui permet de gérer ses onglets sur le côté latéral, comme un menu, comme on peut faire avec le menu des marque-pages ou le menu de l'historique, hein, si on fait CTRL-H ou CTRL-B dans Firefox, si je me souviens bien, on affiche sur la gauche les marque-pages ou l'historique, eh bien, on peut aussi afficher sur la gauche les onglets de l'extension TriStyle Tab ou de l'autre qui est Tab Center Reborn.
Donc T-A-B espace C-E-N-T-E-R espace R-E-B-O-R-N.
C'est ça. Donc ça, c'est des extensions qui permettent d'occuper une colonne sur la gauche de l'écran, et puisque nos écrans maintenant sont pour beaucoup passés en 16/9, comme on dit, ou sont plus larges que hauts, on a plus de largeur. Et donc dans cette colonne, ben, chaque onglet n'occupe plus que, on va dire, moi je dirais à la louche comme ça, un 5% ou un 3% de la hauteur, et donc on peut en mettre beaucoup. Mais on peut surtout avoir un mécanisme de cascade. C'est-à-dire que les onglets que l'on ouvre à un moment donné, par exemple, on va sur Wikipédia, et puis sur Wikipédia, on se dit « Oh, ben tiens, je veux aussi lire cette page. » Et puis quand on lit cette page, « Oh, je veux aussi lire cette page. » Et si à chaque fois qu'on clique sur un lien, on l'ouvre dans un nouvel onglet, ou on fait un contrôle-clic, eh bien, la page d'origine, celle de laquelle on est parti pendant notre exploration du web, est un onglet parent. Et en dessous de lui s'ouvrent les autres liens que l'on a ouverts depuis cette première page d'origine. Et donc ce qui est chouette avec un truc comme TriStyle Tab, c'est qu'on peut avoir une sorte d'arborescence d'onglets qui s'ouvre sur la gauche du navigateur. Et du coup, puisque c'est une arborescence, ben on peut choisir de la collapse. Je sais pas comment dire, de la...
Coller ?
De la rassembler ou de l'ouvrir. Il y a une espèce de petite flèche comme ça qui permet de...
Diminuer,
c'est ça, ou afficher tous les onglets qui auraient découlé d'une première page de laquelle on serait parti. Et donc ça permet comme ça d'optimiser un espace dans le navigateur web pour y voir le plus grand nombre possible d'onglets et qui sont un peu hiérarchisés les uns les autres.
Ouais, et pour commencer, c'est vrai que TriStyle Tab est vraiment utile pour quand on commence à avoir beaucoup d'onglets, mais ça peut être assez effrayant à utiliser pour la première fois pour les personnes qui n'ont pas cette mentalité de avoir des onglets en mode hiérarchie. Et c'est pour ça que je voulais parler de Tab Center Reborn, parce que ça vous impose pas encore cette hiérarchie d'onglets, mais ça vous permet de déjà les avoir sur la gauche, ce qui est une manière plus visible de parcourir ces différents onglets que juste sur le haut, qui est un peu moins accessible.
Et puis c'est, moi ça me fait penser au, il y a une PS, ils ont une donc petite singularité, ils ont un espace qui s'appelle Goinfre.
Ah oui.
Et ça me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que pourquoi on ouvrirait beaucoup d'onglets ? Mais parce que, par exemple, on peut être très curieux et on est parti sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et du coup, peut-être que, du coup, effectivement, si tu structures tes onglets, ça peut t'aider dans tes recherches et dans ton...
Ah oui,
t'accompagner pour une curiosité encore plus grande.
Oui, et puis tu commences à imbriquer les curiosités. Donc tu commences une page Wikipédia, puis tu cliques sur tous les liens sources. Puis dans ce lien source, il y a encore plein d'autres pages à visiter. Ça peut très 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 vite être en mode pieuvre.
Mmh.
Mais c'est ça qui est chouette avec Internet. C'est à de fond. Se perdre sur Internet.
Ouais, il y a de ça, mais en même temps, ça permet aussi franchement de... Oui, je ne sais pas moi s'il y a encore parmi nos auditeurs et auditrices des gens qui ne connaissent pas le fait qu'un navigateur Internet, ça peut se reposer sur l'utilisation des onglets de navigation. Et si on ne connaît pas, ben, CTRL-T ou utiliser la petite icône plus à côté de la page qu'on visite, qui est souvent là où il y a la barre d'adresse avec l'URL écrite dedans. URL qui disparaît par exemple dans certains navigateurs comme Safari. Ou dans les navigateurs de smartphone aussi, on ne voit plus tellement l'URL. Il y a comme ça des navigateurs qui font disparaître l'URL, donc l'adresse du site web ou de la page qu'on est en train de visiter. Moi, je trouve que c'est bizarre comme choix, mais donc du coup, dans Firefox, on les voit toujours et c'est très bien. Et grâce à CTRL-T, on peut créer un nouvel onglet et donc commencer une autre navigation. Et c'est vrai que quand on prend cette habitude, en fait, on peut se retrouver avec beaucoup d'onglets ouverts, voir un petit CTRL-N pour faire une nouvelle fenêtre et repartir avec des CTRL-T et ouvrir comme ça encore plus d'onglets. Et avec des outils de ce genre-là, ben on peut en plus les déplacer, les réorganiser et voir aussi en faire un marque-page de, d'un onglet par an, puisque avec Tristyle Tab ou les onglets affichés sur la gauche, on a toute une arborescence et on peut se dire, bah tiens, dans cette arborescence-là, je vais conserver quelques pages ouvertes et même redéplacer quelques autres pages que j'ai ailleurs et hop, marquer tout ça d'un coup dans mes favoris.
Et le CTRL-SHIFT-T, moi ça m'a déjà, je connaissais pas avant et ça m'a quand même déjà sauvé 2-3 fois. Donc t'es occupé effectivement à bosser, tu cherches des trucs. Et puis, tu as par exemple trop d'onglets ouverts, justement, parce que tu ne les gères pas bien. Et du coup, tu renfermes. Et oui. Puis, tu te dis, merde, pourquoi j'ai fermé ce truc? Et en fait, en faisant CTRL-SHIFT-T, tu réouvres un onglet que tu as fermé.
Oui, ça se repose sur l'historique. Donc, ça marche moins bien. Je pense que ça ne marche pas dans les fenêtres privées si on les ferme. Je pense que...
Oui, tu gardes cet historique si tu ne fermes pas ta fenêtre de session privée.
Donc, il faut bien faire la distinction entre une fenêtre ouverte de Firefox, bah, elle ne s'ouvre pas par défaut en mode privé, bien qu'il y ait une option dans le about.config qui permette de dire tous mes fenêtres de Firefox s'ouvrent en fenêtre privée. Évidemment, le fait d'ouvrir et d'utiliser les fenêtres privées, ben, l'historique, il est effacé quand la fenêtre elle est fermée.
Moi, j'utilise l'idée. Peu.
Mais quand on n'est pas en navigation privée, eh ben, de fait, ou qu'on est en navigation privée mais qu'on n'a pas fermé la fenêtre, utiliser CTRL-SHIFT-N ou CTRL-SHIFT-T, ça demande de réouvrir le dernier onglet ou la dernière fenêtre fermée. Et si on le fait plusieurs fois d'affilée, on peut remonter dans le temps et dans son historique. Si on fait des CTRL-SHIFT-T plusieurs fois, eh bien on réouvre les X derniers onglets qu'on a fermés dans son navigateur et qu'on n'aurait pas voulu le faire. Parce qu'on va, en fait, Firefox va relire l'historique et comparer avec le fait que cette fenêtre a déjà été fermée. Donc je la réouvre, et la suivante, et la suivante, et la suivante. Bien, ben c'est bien ça, c'est des chouettes outils qui aident à la navigation sur le web quand on aime bien avoir plein de fenêtres et plein d'onglets ouverts.
C'est surtout que notre usage aujourd'hui est de plus en plus avec le monde du web et que de moins en moins d'autres applications.
C'est pas faux.
Et je pense que c'est intéressant de parler un peu parfois de nos petites astuces et trucs sur les navigateurs web.
Ah oui, et dans le même genre, du coup, il y a encore une autre fonctionnalité qui fonctionne aussi sans le Tristyle Tab, donc il fonctionne avec Firefox ou même d'autres navigateurs probablement, c'est le fait de épingler des onglets.
Ah oui.
Épingler les onglets, ça a un effet fort sympathique. C'est justement, quand on n'a pas Tristyle Tab, les onglets occupent comme ça, comme je disais, 10% de l'espace de la fenêtre, de la largeur de la fenêtre. Mais si on fait un clic droit sur un onglet qui est ouvert et qu'on choisit de l'épingler, alors seul le petit icône qu'on appelle le favicon est conservé et affiché et il se range tout à fait à gauche de la fenêtre, ce qui permet comme ça d'avoir, puisque c'est de plus en plus la mode, des salons de discussion par exemple ou des pages de forum qu'on aime bien suivre.
Et ça même si vous fermez le navigateur et que vous le réouvrez.
Oui.
Donc ça reste en permanence épinglé.
C'est ça. Les onglets épinglés n'occupent plus que la taille d'un icône sur la gauche ou tout au-dessus dans le cas d'un Tristyle Tab. Mais quand on ferme le navigateur et qu'on le réouvre, eh bien les onglets épinglés restent à disposition sous la forme d'un icône tout petit, là où sont tous les autres onglets. Et c'est très pratique pour garder comme ça les réseaux sociaux et autres outils de communication sous la main, sans devoir installer un logiciel client ou retourner toujours sur le http.jepasquoi du salon ou du forum qu'on a l'habitude de suivre. On peut les garder, en plus de les mettre dans ses favoris si on veut, mais sous forme d'icône épinglée, c'est quand même bien pratique.
Par contre, ça ne rafraîchit pas la page quand on réouvre le navigateur. Donc si vous l'avez fermé et que vous le réouvrez, il faudra recliquer sur le petit icône pour avoir l'information à jour ou qu'il se reconnecte pour avoir les notifications.
Tout à fait, monsieur Tariroc, tout à fait. D'ailleurs, ce comportement sera manifesté par la présence d'une petite bulle bleue qui dit que cet onglet n'a pas été rafraîchi depuis votre dernière réouverture. Tout est pensé, monsieur, madame, pour votre confort, pas pour votre sécurité cette fois-ci, mais pour votre confort d'utilisation dans les outils que sont les navigateurs web comme Firefox et d'autres que je connais moins. Mais ce genre de fonctionnalités existent et sont souvent dissimulées derrière des clics droits qu'on peut faire quand même encore. Ben, pour les gens qui ont Mac, ça marche le clic droit si on fait commande clic. Ou bien si on va dans les paramètres de sa souris, activer le clic droit. Parce que chez Apple, on a fait disparaître le clic droit. Je ne sais pas pourquoi. Et ça fait longtemps, en tout cas. On s'est dit, oh non, les menus contextuels. Parce que le clic droit, ça fait apparaître ce qu'on appelle un menu contextuel. Ça veut dire qu'en fonction de l'élément sur lequel on clique, un petit menu apparaît. Et si cet élément, ben, c'est un icône sur le bureau, ben, on pourra y voir, je sais pas moi, propriété, copier, coller, supprimer, renommer, des trucs comme ça. Mais si c'est un onglet, on peut voir apparaître, marquer, déplacer dans une nouvelle fenêtre, épingler, des fonctionnalités du genre. Au même titre que si on sélectionne un mot dans un traitement de texte, si on fait un clic droit dessus, ben, on verra un correcteur orthographique ou ajouter au dictionnaire ou mettre en gras, ou, enfin bref, d'autres fonctionnalités disponibles dans le menu contextuel. Le clic droit, c'est pour les amateurs de souris, c'est bien pratique et ça fait apparaître parfois des tas de petites fonctionnalités qu'on ne connaît pas dans nos outils numériques.
Eh bien, sur ces belles paroles, je vous propose une petite pause avant d'entamer le second sujet. Et je vous dis à tout de suite.
Yes. Oh, et voilà, ici c'est Radio Campus à Bruxelles.
Sur l'émission Source, dans la radio Radio Campus 92.2 de Bruxelles. Autour de la table, nous avons Thiers,
Peter
et Nico.
J'ai l'impression qu'on fait un début d'émission.
Nick Nouragiste, en fait. En tout cas, au démarrage,
ah oui,
avec toi aussi, quatre Nouragistes.
Et Tyrock aussi, pour vous parler depuis la régie.
Et AGO. Ah, profite bien de tes congés. Qui n'est pas là ce soir.
Non. La dernière fois qu'on avait dit ça, il avait hop, il était apparu immédiatement.
C'est un peu comme Beetlejuice. Hein. À mon avis, si on dit trois fois AGO, il va se connecter sur quelque chose. On est déjà deux fois.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite réflexion sur les agendas et le monde du libre récemment. En tout cas, une petite réunion hier.
Ah oui, ça c'était sympa, tiens. Oui, de fait, c'est venu comment ? Donc, Abeli. Association belge de promotion du logiciel libre à Bruxelles, qui a été fondée dans le cadre des rencontres mondiales du logiciel libre de 2013 ou 2013. Donc, Abeli, hier, était présent pendant une petite réunion avec les Amis de la Terre, qui ont mis en place au sein de leur association, un groupe qui s'appelle Informe Éthique, dans l'idée de se positionner, se questionner et mettre en pratique aussi le monde du logiciel libre au sein de leur association ou de leur réseau de relations, connaissances et mouvements. Et donc hier, on a eu une petite réunion où on a papoté entre Abeli, les Amis de la Terre et moi qui étais connecté sans vraiment l'être, puisque je faisais la cuisine, mais avec un clavier sous la main. Oui, parce que c'est possible de cuisiner un risotto avec un clavier sous la main. en tout cas, pas très loin.
Je peux vous dire qu'il y avait des touches en risotto, mais tout s'est bien passé.
Ouais, bon, personne ne se plaint d'avoir mal digéré une petite touche ou je sais pas quoi. Donc voilà. On s'est dit, mais on partait. Je pense que tout le monde partait un peu du constat qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour avoir une sorte de vue d'ensemble de qu'est-ce qu'est le logiciel libre en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a comme associations qui en font la promotion? Qu'est-ce qu'il y a comme magasins qui en font éventuellement la vente ou la distribution? Qu'est-ce qu'il y a comme groupe d'influence, politique ou non? Qu'est-ce qu'il y a comme, organisation qui pratique ou utilise le logiciel libre? Qu'est-ce qu'il y a comme
rendez-vous, événements,
comme groupe d'utilisateurs Linux? Parce qu'en fait, des ressources qui font du libre, il y en a pas mal. Et là, il y a Virginie de Abelli, que je salue bien bas, qui avait déjà entrepris une carte mentale. Qui est accessible depuis un des sites web dont on a papoté hier, qui s'appelle auxportesdulibre.be, au pluriel, auxportesdulibre.be. Yo, mon nom, moi, c'est auxportesdulibre, oui, tu l'as deviné. Et là-dessus, c'est un wiki que j'avais mis en place il y a déjà, je pense, un an, qui est... comme tout wiki, c'est un début de brol en espérant que de plus en plus de gens vont le découvrir et s'y intéresser et peut-être participer. Et je crois hier j'ai mis le lien vers cette carte mentale de Virginie Dabelli qui essaye de rassembler un peu comme ça différents secteurs d'activité dans lesquels le libre est plus ou moins promu, défendu, porté, utilisé. Et donc... c'était une chouette réunion parce qu'on s'est dit après tout que on peut réinventer la roue, refaire encore une autre plateforme. Et c'est là où je me suis dit mais en fait au porte-libre ça pourrait servir à ça. Et on verra bien ce que ça donnera. Mais donc c'est un endroit comme tant d'autres parce qu'en fait il en existe. Mais ceux qui sont les plus pertinents aujourd'hui c'est plus par exemple des agendas. Il y a des agendas en ligne, il y en a au moins 2-3 comme... agendadulibre.org ou bien hackeragenda.be qui sont des sites web sur lesquels on peut retrouver quelques activités libristes du moment. Et en fait, il y a pas mal d'autres ressources que je trouve que ça vaudrait la peine de mettre en valeur. Et peut-être que tout ça se retrouvera un jour ou l'autre sur auxportesdulibre parce qu'il y a même une cartographie des Linux User Group. Je sais plus qui avait mis ça en place.
Michelus.
Il y a une cartographie belge comme ça où on voit les différents endroits où il y a des Linux User Group. On s'est dit, ça serait bien de fédérer un peu nos efforts et essayer de mettre en avant qu'est-ce qui se fait déjà autour du logiciel libre ici en Belgique. Et si nous avons des auditeurs, auditrices néerlandophones, parce qu'on s'est aussi posé la question de, ici on a un point de vue francophone, ça serait chouette aussi d'avoir un par-delà les frontières, aussi subtiles et débiles soient-elles, de mettre en commun les ressources néerlandophones au même titre que les ressources francophones en Belgique.
D'ailleurs, hier soir, il y avait une émission sur Radio Centrale, Webgang. En flamand et en anglais, de ce que j'ai entendu.
Radio Centrale, c'est à Anvers, ça.
Anvers.
Oui.
Et du coup, c'est un peu un équivalent de source, quelque chose comme ça, à Anvers. Ou non, enfin, pas complètement, jamais, tout ça, mais bon.
Ouais, on peut dire ça.
Mais c'est pas le même école, hein. C'est pas le même...
pourquoi tu prends une fois un accent comme ça?
En fait, moi, c'est vrai que chaque fois que... tu vois, c'est vrai, t'as raison. Je trouve que, tu vois, à Bruxelles, le bruxellaire, tu vois, c'est un peu un mix, justement, parce que tu dis faire des mix, mais à Bruxelles, le mix, il est fait. Hein.
Ah ouais, c'est sûr, inquiète, on va quand même pas déconner.
Le bruxellois, c'est le français et le flamand en même temps.
Ah ouais.
Donc, en fait, c'est une application immédiate de ce que tu viens de dire.
C'est pas faux. Mais voilà. Et c'était quoi l'émission hier qu'il y avait à Radio Centrale?
Je sais pas. Webgang.
Webgang.
Ça s'appelle, ouais. Il y a chaque semaine, jeudi soir, 6 à 7.
Jeudi soir, 6 à 7, sur Radio Centrale, il y a Webgang. Ik spreek niet Nederlands, dus ik weet het niet. Wat ah, is...
We moeten een effort doen, hein.
Ça, voilà,
c'est,
voilà.
C'est très important. Et quoi, voilà. Mais du coup, non, mais sérieusement, cette question là, francophone, néerlandophone, donc a été posée hier durant cette
oui, elle a été posée parce que de fait, tu vois, on fait un truc à la con, tu vois, aux portes du libre, le nom de domaine, c'est francophone. Mm-hmm. Et donc, du coup, on s'est dit, ah ouais, merde, comment on fait si jamais des associations néerlandophones étaient intéressées de contribuer? Est-ce qu'on va se retrouver à devoir changer de nom de domaine ou rajouter un nom de domaine juste pour pouvoir. Bref, le côté. Ça, c'est une des joyeusetés de la diversité belge, c'est que nous sommes par nature pluriculturels et plurilingues. Et donc, du coup, quand on s'embarque dans une initiative dans l'intérêt commun, on se retrouve assez rapidement à se confronter au multilinguisme.
Ouais, et puis c'est que le début, parce qu'aux portes du libre, ça touche toutes les langues, ça touche, tu vois, par exemple, les Lugs. Moi, j'avais déjà rêvé, comme ça, par exemple, à ici, par exemple, on pourrait une fois essayer d'appeler un Lug, je sais pas moi, aux États-Unis, hein, en Afrique. Hein,
ah ouais, ça serait drôle, ça, tiens.
Pour dire bonjour.
Ce soir, nous avons le Luc de Kinshasa en ligne.
Ou de Houston.
Oui, oui. Un bon gros Luc en plein cœur de la Silicon Valley. Ça existe.
Il doit y en avoir. Il y a peut-être un petit Luc qui résiste.
Dans un garage, un vrai celui-là.
Au milieu de la Silicon Valley.
Et donc, ouais, voilà, donc c'était chouette parce que moi, j'ai le sentiment comme ça que. C'est un peu le témoin que petit à petit, différentes personnes, groupes, associations et autres commencent à réfléchir un peu dans la voie du logiciel libre. Et donc, du coup, cherchent un peu à tâtons, certes, qu'est-ce qui se fait déjà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, comment on peut mieux s'organiser. C'est une bonne nouvelle. Je
Bon, moi, je rebondis souvent sur ce que tu as dit au OFDEM, au deuxième OFDEM qui a eu lieu. Donc, où tu disais que les réseaux, c'était tout un questionnement de petite singularité sur comment tisser encore mieux les réseaux et tout ça. Mmh. Et que, effectivement, toi, tu repartais plutôt du point de vue que les réseaux étaient tissés.
Oui.
Et que donc, plutôt observer ce qui est déjà tissé. Et qu'effectivement, j'ai l'impression que les contacts ou les gens sont déjà en contact. Et il y a comme ça une multiplicité de.
Ah oui, oui, oui.
De relations.
Ouais, c'est sûr.
Et qu'on les observe peut-être pas assez bien.
Mais moi, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que je trouve que les sujets qu'abordent toute la thématique autour du logiciel libre sont des sujets, au fond, assez pointus. C'est ou techniquement pointu, ou presque conceptuellement pointu. Mmh. C'est-à-dire que, comme on vient de faire ici, de parler de mieux utiliser tes onglets dans ton navigateur Internet. Si déjà les gens peuvent ouvrir une page web et chercher et tomber sur un site web, il y a beaucoup de gens qui sont déjà très contents. Mmh. De là à savoir qu'on peut demander beaucoup plus d'un navigateur web, c'est très pointu. Et je trouve que à cause de ce fait que c'est quand même un secteur d'activité humaine qui est très technique et assez pointu, ça demande pas mal de ressources et ça a comme effet que les groupes qui existent sont plutôt auto-centrés, comme ça, tu vois, ils sont un peu concentrés sur leur sujet ou leur thématique ou leur relation directe, tu vois, les quelques personnes qui viennent visiter un espace public numérique ou les quelques personnes qui viennent autour d'un Hack Lab ou d'un Hackerspace ou les quelques personnes qui gravitent autour d'un Linux User Group ou les quelques personnes qui viennent chez Neutrinet. Ça fait des petites bulles, mais qui demandent déjà pas mal d'efforts pour rester concentrés sur le sujet de la petite bulle en question, qu'on ne prend pas toujours le temps de prendre un peu de distance sur le fait que ces personnes sont souvent aussi liées à d'autres bulles. Mmh. Et que du coup, moi, c'est comme ça que j'ai le sentiment qu'au fond, les réseaux sont liés, mais ils sont liés plutôt de relations interpersonnelles, mmh. Ce qui est pas mal en soi. Mmh. Plutôt que de relations interbulles, comme ça, tu vois. Il n'y a pas une vraie conscience de la part, je veux dire, de, je sais pas moi, on pourrait dire de Neutrinet, d'être en lien avec Abelie. Mm. Tu vois, il n'y a pas de relations formelles. Mm. Mais par contre, il y a plein de relations informelles. Et c'est pour ça que moi, j'avais envie de dire que oui, je trouve, de mon point de vue en tout cas, que les réseaux sont liés parce que les individus sont rarement limités à une de ce genre de bulles. Ils sont souvent les pieds et les mains et les claviers dans plusieurs bulles qui font du logiciel libre. Donc moi, j'ai toujours eu ce sentiment que c'était...
Ça se voit assez facilement. Hein. Il y a les personnes qui gravitent dans plein d'assos, ça se tient dans un mouchoir de poche. Et une fois que tu commences à les connaître et à distinguer dans quel groupement ils sont, tu fais très très vite beaucoup de liens dans, si on prend par exemple la sphère bruxelloise libriste, c'est à peu près souvent les mêmes personnes qui y gravitent, où tu as peut-être deux ou trois liens de relation avant d'avoir la même personne. Mm-hmm. C'est vraiment un réseau qui est assez sur soi.
Oui, ça aussi, oui. Bah, en même temps, le thème du libre, c'est...
Oui, en même temps,
c'est pointu, quoi.
Mm-hmm. En même temps, moi, ça me pousse un peu. Là, ces derniers temps, j'ai essayé, par exemple, de poser la question. On a posé la question Grésea, avec qui on travaille. Et là, il y avait quand même 3-4... On nous a parlé de 3-4 personnes qu'on ne connaissait pas.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Donc, je crois qu'aussi, tu vois, continuer à faire un effort de poser des questions sur, tiens, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui... ça, on serait peut-être encore surpris de découvrir à Bruxelles...
Ouais,
pas
sûr.
Mal de gens qui en fait utilisent Linux par exemple et qui voilà qui sont pas connectés de la même manière ou pas connectés du tout.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs Peter, toi tu disais un truc par rapport à ça là, et pas longtemps où tu disais que peut-être non mais le truc c'est que c'est vrai que si tu sais bidouiller avec un ordi et que tu sais installer Linux et que t'es pas en contact pour une raison ou une autre avec d'autres, bah en fait tu peux aussi te débrouiller très facilement dans ton coin.
Alors vous n'avez pas vu la tête de Peter, donc je vais vous la distinguer et essayer de la décrire. Il a regardé Nico avec des gros yeux et une tête qui il y a plusieurs petits plis qui étaient pas imaginables sur son visage se faire. Mais je te laisse t'exprimer, Peter.
Ouais, je rappelais encore. Mais le oui, Linux en soi,
ouais, c'est une question d'être seul. On peut se démerder tout seul.
Oh, mais ouais, ça me surprendrait pas. Et où moi, dans le temps, en cherchant un peu, tu tombes sur un CD allemand.
Tu dis quelle génération vous tombez sur un CD? Tu peux dire Joker. Ouais.
De lequel? C'était oui. Deutsche Linux Distribution 2. C'était un bouquin et un petit CD dans pêle-mêle ou je sais plus où. Un magasin seconde main, je suis tombé dessus, j'ai essayé d'installer ça sur mon ordi dans longtemps. En arrivant, je suis tombé sur Slackware. À la fin, pour arriver à installer ça sur une petite machine, il y a 20 ans, sur une petite machine, pas savoir vraiment pourquoi ou qu'est-ce que je voulais faire avec. En fait, non, sur le CD DLD, là, Deutsche Linux Distribution, il y avait la mention d'un programme d'architecture. ICAADS, qui existe encore, qui m'attirait. Mais j'avais pas les possibilités de graphisme sur mon ordi. Mais bon, à la fin, tu trouves un truc, sur Internet maintenant, c'est un monde différent. Mais,
clairement.
C'est...
Si je peux me permettre une petite dérive, tu parlais de pêle-mêle et du coup de racheter des livres qui sont en seconde main. Est-ce que vous avez d'autres astuces d'outils numériques seconde main que vous avez perçus à droite, à gauche?
Seconde main? Mais le logiciel libre, mon ami, est toujours à la pointe.
Ouais, mais comment? Comment il peut être encore à la pointe avec parfois des équipements, on avait exprimé lors d'une de nos précédentes émissions le plug PC, qui a une vieille architecture et une distribution assez moderne qui était encore compatible avec. Du coup, comment le logiciel libre est encore à la pointe?
Alors ça, c'est un grand écart de sujet, c'est pas mal. Comment on passe de pêle-mêle et
Mais toi, tu veux dire quoi?
T'as quoi
en tête?
Ouais, j'ai plein de choses en tête.
Mais par rapport à ce que tu viens de dire.
Mais on parlait du second main et du coup des personnes qui peuvent déposer à certains endroits du matériel ou des choses qu'ils n'utilisent plus. Hein. On pensait au livre, d'où pêle-mêle, et il y avait encore un CD dedans, donc c'était un grand miracle pour toi, Peter. Lisible, grand CD qui est encore lisible.
C'était un CD pressé, hein, donc ça tient mieux que le CD gravé. Hein.
Bah, moi, je comprends, enfin bon, de ce que je comprends, moi, par exemple, je trouve que c'est à la pointe parce que, par exemple, ça m'a l'air d'être plus modulable par rapport à un ordinateur de seconde main, par exemple, qui n'aurait pas beaucoup de capacité
technique,
de RAM, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un signe de plasticité, de
Du coup, est-ce que vous avez vu des choses étonnantes ou des moments où vous avez dit mince, grâce au logiciel libre, je peux en faire une seconde vie ou une troisième vie, voire parfois une quatrième vie?
Ouais, depuis les Pentium, hein, quand je passais dans le. Ouais.
Bon, Pentium,
c'est le nouveau il y a 20 ans. Alors, moi je me disais, bon, tout est là, tout est bon. Là,
Pentium, c'est une architecture pour moi, c'est de bon. Processeur.
Ouais, et je pouvais tourner mon petit programme de dessin 3D. Pour moi, tout était là. Et depuis là, en fait, c'est un. Moi je suis content d'un PC.
Ouais, c'est ça. Tu es satisfait des prouesses d'un Pentium d'il y a 20 ans, et tu trouves qu'il n'y a pas spécialement d'évolution technique dans les nouvelles architectures d'aujourd'hui. On peut déjà faire tellement de choses avec un bon vieux Pentium 32 bits quand même. Alors, c'était quand même 32 bits, un Pentium.
Ça veut dire quoi 32 bits?
Très
que le processeur peut à 32 bits d'adresse. Donc il peut assigner. Qui peut lire la mémoire sur 32 bits.
Si je peux me permettre du coup une autre analogie, c'est le tuyau qui relie le processeur, donc le cerveau de votre machine, vers une zone mémoire, donc sa mémoire hein, à très court terme, est de taille, on va dire, de 32, alors que nos processeurs d'aujourd'hui sont plutôt à 64.
Ouais, et qui fait que tous ces calculs, si tu fais une addition, deux numéros, ça sera deux numéros 32 bits à la base dans le processeur. Donc max.
Un chiffre 16
grand. Millions, je sais plus
quoi. Ouais, ça, 2 exposants 32.
Oui,
32 bits. Alors, comment rebondir sur ça? La passion, c'est la passion qui fait la différence. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de logiciels libres, et surtout du côté du kernel et des OS et des distributions et des trucs comme ça, ce sont des outils qui sont, je pense, avant tout faits par des gens qui adorent le défi technique. Et parce que ce sont des gens qui adorent le défi technique, il y a là-dedans toute une communauté de personnes qui éprouvent une certaine, quand même, je sais pas moi, nostalgie ou considération respectueuse envers les architectures plus vieilles et plus anciennes. Et qui trouvent que c'est un défi technique de conserver une sorte de portabilité, comme on pourrait appeler, des logiciels modernes sur des architectures qui le sont moins. Et c'est ce qui fait que on peut trouver des distributions Linux et des logiciels libres qui sont toujours compatibles avec non seulement des architectures Intel i386 ou i686 ou je ne sais plus quoi, AMD, comme on dit, AMD 64, mais aussi avec plein d'autres architectures de processeurs. Processeur MISC ou processeur ARM, ou parce que ce sont des gens qui sont passionnés par le défi technique, parce que certaines technologies sont tout à fait bien documentées et donc permettent de maintenir et développer et de maintenir et de développer comme ça des outils en gardant une grande compatibilité avec le monde matériel existant.
Et moi, je trouve que ça permet aussi d'incarner une critique du système, parce que tu peux faire autrement. Alors que, par exemple, là, ce matin, on avait une discussion dans une école secondaire. Ils ont des tours de récup dont ils sont plus contents. Comme ils veulent rester sur du Windows jusqu'à leur mort, ils n'envisagent pas de passer sous Linux, mais on leur explique quand même que c'est possible de faire autrement. Alors que sinon, par exemple, cette école n'imaginerait même pas que c'est possible de faire autrement. Donc ça permet aussi de vraiment d'incarner quelque chose de, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, moi je trouve d'ultra progressiste ou ultra contemporain. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, au lieu de jeter des ordi, tu les réutilises. Tu peux faire bosser des jeunes, là, ils ont entre 13 et 15 ans pour apprendre l'informatique, c'est fantastique. Donc, au lieu d'aller à la poubelle, tu donnes des outils énormes à toute une série de jeunes qui peuvent avoir un outil pour apprendre l'informatique. C'est ça aussi, pour moi, la nuance, tu vois, c'est énorme comme action.
Oui, mais ça, c'est... Ouais. Ça rejoint ce côté que l'intérêt est ailleurs que de considérer que le machin est devenu obsolète et qu'il vaut mieux en acheter un nouveau. L'intérêt est ailleurs. Il est dans le machin, avant d'en devenir un déchet, il existe des tas de pistes à explorer pour encore en faire quelque chose.
Oui, si je peux me permettre aussi un ajout dans toute cette discussion. Moi, j'étais frappé il y a quelques années de ça parce que j'étais une personne, très simplement, j'ai donné un coup de main pour créer une image Unhost pour des machines. Et en fait, je ne me rendais pas compte que ces machines, c'était des jerrycans qui allaient dans des écoles dans des pays défavorisés. Et ça m'a frappé de mon action en tant qu'occidental européen très connecté et très
moderne.
Branché, moderne, était en train d'aider une personne à l'autre bout du monde avec du logiciel libre. Et c'est grâce au logiciel libre que cette aide a pu se créer. Parce que si on était avec d'autres modèles de propriété, ça n'aurait pas été possible.
Mmh. Bah oui, mais je pense qu'il y a une puissance que nous, on a bien perçue, mais qui ne peut pas être perçue par énormément de gens, parce que de un, ils ne sont pas au courant que ça existe. Et de deux, il y a aussi quand même un lobby, un monopole, enfin en tout cas un lobby pour que ça n'émerge pas, en tout cas simplement ou facilement dans les structures étatiques par exemple, ou dans les grandes institutions comme les écoles par exemple, ou les administrations. Et ça pose, c'est là que ça pose quand même un... Je dis pas que c'est pas possible, ou en tout cas il n'y a pas une volonté. Nous, on n'a pas encore vu quand même un endroit où on nous dit « Ok, messieurs, super, on veut installer Linux dans notre administration, dans notre école, soyez les bienvenus. » Tu vois, c'est jamais... moi, j'ai encore jamais vu ça.
Alors, en une phrase, allez, maximum deux phrases, quels sont vos trucs et astuces pour de la récupération, du seconde main ou... Le truc qui vous a fait « Ok, j'ai pu recycler » ou « Ok, j'en ai fait une seconde vie
bah, ». Il y a au Hack Lab, y a Denis qui est venu déposer, qui dépose de temps à autre du matos.
Just do it. C'est, on va reprendre le slogan de...
Ah non, on peut pas.
Do it yourself.
Non plus.
En fait, il y a, ouais, non, je sais pas, reconditionner. Ouais, je sais pas quoi résumer parce que c'est, en fait, si SSD, l'avènement de la prouesse technologique qu'est le SSD donne franchement pas mal de gains en termes de performance à du matériel un peu vétuste. Si vraiment la performance est un de vos critères de choix. Mais ouais, il y a comme ça, ouais, c'est truc et astuce. C'est clair que c'est avant de jeter, c'est vraiment se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, le nombre d'ordi qui finissent dans les containers, c'est un peu con. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose? Oui, il y a moyen. Le tout, c'est peut-être pas l'ordi avec lequel vous allez jouer à votre nouveau jeu vidéo 3D super définition Brawl Bidule, mais ça pourrait être votre petit centre multimédia personnel qui vous permet de regarder vos vidéos, vos photos, ou écouter votre musique. Ça peut être des trucs comme ça. En une ou deux phrases, c'est difficile parce qu'il y a tellement de possibilités avec du vieux matos que c'est... Oser ne pas considérer ça comme un déchet, mais continuer à considérer ça comme une ressource potentielle.
Mmh. Eh bien, merci. Et je vous propose une petite pause avant d'accueillir d'autres personnes, d'autres sujets, et de continuer cette belle parole.
Merci.
Radio Campus, le carnaval, c'est dans ta tête.
Je parle français.
Thierry et Didier mettent leurs chemises pour aller à la radio.
Thierry et Didier mettent leurs chemises pour aller à la radio.
Thierry.
Thierry.
Didier.
Didier.
Chemise.
Chemise.
Radio.
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 Radio Campus.
Et nous revoilà sur Radio Campus, un nombre de points sur les ondes bruxelloises. Et autour des micros, nous avons Thiers, Peter, Nico et Holm qui vient de se rajouter. Bonjour tout le monde.
Hello.
Salut.
Yo.
Yo.
Alors, on voulait vous parler d'un petit logiciel open source fort bien utile et fort bien couteau suisse dans les ondes justement, qui est Audacity. Et Audacity vient d'être acheté par Muse Group. Et je propose, Holm, que tu en touches quelques mots.
Ah ben oui, ok. Donc Audacity, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'édition son. C'est un truc relativement basique, en fait, au départ. Enfin, ça a l'air comme ça, avec une interface assez simplifiée, assez minimaliste, qui d'ailleurs fait un peu peur à certains et peut-être est une des raisons de ce rachat. Mais par contre, c'est un outil qui est en fait extrêmement utile et vraiment permet de faire beaucoup de choses. Donc ça permet d'éditer du son, donc des pistes de son de base, mais aussi d'ajouter des effets et de faire des compositions multicanales, voire aussi tout ce qui est exportation dans divers formats et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un petit couteau suisse comme ça qui est hyper utile pour toute personne qui va travailler le son.
Ouais.
Alors le petit truc justement avec cette ce rachat, c'est un peu bizarre hein, comme qu'un logiciel libre soit racheté. Donc en fait, ce qui semble s'être passé, c'est que cette société qui l'a racheté s'est dit, on rachète le logiciel, mais on continue à le développer en modèle libre. Et ce qu'on va faire, c'est surtout aussi payer des programmeurs pour améliorer l'interface. Alors justement, cette interface à l'heure actuelle, elle fait un peu peur à certains parce que on va dire qu'elle est un peu sèche.
Hein, elle est un peu austère aussi. Hein.
Austère, sèche. Elle n'a pas le côté macOS comme ça.
Ouais, c'est pas comme Ardour.
C'est pas beau.
Oui, c'est pas comme Ardour où tu peux avoir des jolies icônes ou des jolis petits effets à droite à gauche qui peut aider. Ou Jaws aussi, qui est un autre grand logiciel d'édition. Qui a une banane de mémoire comme logo, qui est assez sexy quand tu n'es pas très en phase avec c'est quoi le monde de l'édition audio. Ça t'aiguille pas mal. C'est vrai que Audacity, c'est un peu brut de coffrage. Et bonjour, tu as ton couteau suisse et.
C'est tout.
Voilà. c'est tout.
Et c'est tout.
Mais ça, c'est vrai que si l'ambition, c'est de refondre l'esthétique, donc c'est de repenser le GUI, hein, le Graphical User Interface, l'interface graphique pour l'utilisateur, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est souvent une plainte qu'il y a vis-à-vis, on va dire, du monde du logiciel libre, qui sont des logiciels souvent assez puissants, mais où, de fait, on met plus l'accent sur la compatibilité, la portabilité, le nombre de fonctionnalités. Et puis, s'il reste du temps, peut-être l'esthétique. Et c'est parfois un reproche qu'on fait au monde du logiciel libre. Et peut-être que, de fait, si c'est l'ambition de derrière le rachat de Audacity par
Muse
Group.
Muse comme groupe de musique.
Ça pourrait être chouette parce que c'est vrai que c'est bête que des gens s'arrêtent à l'aspect esthétique d'un logiciel sans prendre le temps d'aller au-delà et d'explorer les fonctionnalités qui sont souvent innombrables. Et on ne parle même pas encore des plugins et multiples extensions, voire bouts de code qu'on peut faire soi-même à la fin pour encore optimiser les usages qu'on aurait de son logiciel libre, esthétiquement pas joli. Mais algorithmiquement puissant.
Oui, voilà. Il y a aussi, tu disais, s'il reste du temps, on s'occupe de l'interface. Je pense que pour pas mal de logiciels, il y a aussi juste pas l'attention, voire les compétences pour s'attaquer à ce problème spécifique qui est une interface qui est quand même quelque chose. Allez, un tout petit peu différent que de développer des fonctionnalités de base. Un interface, c'est pas une personne qui va être spécialisée dans la création de plugins audio, elle va être spécialisée dans les mathématiques qui vont pouvoir donc justement créer toute une série d'algorithmes qui vont travailler sur les ondes, sur. Voilà, c'est le travail mathématique pratiquement. Le travail sur l'interface, c'est complètement autre chose. C'est comment est-ce que j'atteins telle et telle fonction facilement, comment est-ce que je combine telle et telle fonction ensemble, et ainsi de suite, du point de vue d'un utilisateur. Et donc ça demande, du point de vue des développeurs, en fait, un changement d'optique sur le logiciel. Ce que pour des logiciels libres qui en plus sont souvent développé de manière en partie ou tout bénévole, au final c'est effectivement la dernière des attentions, voire des compétences. Et donc le fait qu'on mette de l'argent dans des développeurs qui vont spécifiquement se concentrer sur cette question-là, c'est pas rien. pour tous les logiciels, quels qu'ils soient. Et en fait, c'est un peu là-dessus que fait son beurre Apple et compagnie.
Ouais. Et juste pour parler de Muse Group, parce qu'on pourrait être inquiet hein, d'avoir un oracle numéro 2, et cette fois-ci dans le monde audiophonique, Muse Group a déjà racheté par exemple MuseScore, qui était un site et une application qui permettait de faire des tablatures de guitare. Et à l'heure actuelle, c'est toujours en open source, c'est toujours gratuit, cet achat date de 2017. Et du coup, c'est un petit gage de qualité.
Ils sortent d'où ? Ils viennent d'où ? Muse Group ?
C'est les fondateurs du groupe Muse qui ont fait un label et de fil en aiguille en font un vrai studio et un...
Ah ouais, donc c'est en lien direct avec le groupe de musique Muse ?
De ce que j'ai pu lire.
Mmh. Ok.
Ah oui, ah, comme Muse de... Muse quoi.
Muse.
Ok. Ah oui, ok. Bah j'espère, oui.
Ça, ça peut vérifier. Après... La question de l'inquiétude, je pense qu'elle n'est quand même pas tout à fait levée. Il semble clair qu'ils vont conserver en gros la, bah, le projet en open source, GPL, etc. Maintenant, avec Muse, il y a quand même eu une relative privatisation de ce qui avait été construit par la communauté précédemment, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu. Il faut maintenant avoir un compte payant pour accéder au forum et aux ressources qui avaient été créées par tous les utilisateurs de la communauté. Mmh. Donc il y a quand même un petit truc qui peut coincer un endroit ou l'autre. Mmh. Et j'ai lu aussi juste là, tout à l'heure, sur Mastodon, qu'apparemment, ils allaient intégrer aussi dans Muse, mais dans Audacity, un système de télémétrie qui est évidemment désactivable, mais voilà, il faut le désactiver et il faut savoir que c'est là. Donc ce genre de petit truc, à un moment donné, peut-être petit à petit, ça peut quand même saper la confiance dans le groupe. Maintenant, on va voir comment ça se développe réellement dans l'avenir.
Alors, pour nos auditeurs et auditrices, la télémétrie. Beaucoup d'outils numériques sont capables de collecter comme ça tout un tas de statistiques sur leur fonctionnement. Ça peut aller du... voilà, tu as ouvert un logiciel pendant X heures et pendant tout ce temps, le processeur a été fort utilisé, la mémoire a été très consommée, les accès disque dur ont été très nombreux, les accès réseau ont été très exigeants. Tous ces chiffres, je veux dire qu'un bout de logiciel qui accompagne des tas d'autres logiciels qui aurait comme vocation première de compter un peu qu'est-ce que le logiciel a comme conséquence sur ton ordinateur à toi. C'est ce qu'on appelle la télémétrie. La télémétrie, elle peut aller beaucoup plus loin aussi. Elle peut aussi compter le nombre de fois que tu cliques sur telle ou telle ou telle icône, le temps que tu passes à survoler tel ou tel ou tel menu, le temps que tu mets à convertir un fichier d'un format à un autre. Enfin bref, il y a plein d'informations comme ça que la télémétrie peut collecter sur l'utilisation que toi, utilisateur, tu pourrais avoir d'un logiciel en particulier. Le problème de la télémétrie, si problème il y a, c'est qu'elle peut évidemment avoir une double finalité. La première, elle est super intéressante parce qu'elle permet aux équipes de développement de comprendre comment les gens utilisent les logiciels et quels sont éventuellement les fuites de mémoire ou dysfonctionnements dans certaines architectures, 32 bits, 64 bits, ARM, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est super chouette pour l'équipe de développement qui peut être informée comme ça grâce à quelques statistiques sur comment fonctionne un logiciel donné. Évidemment, l'effet pervers, ben, c'est que ça informe aussi ces mêmes équipes de développement ou d'autres sur tes habitudes d'utilisation. Parce que voilà, dans la télémétrie, on peut voir que tu préfères travailler de nuit sur ton logiciel de traitement photo ou de Audacity ou de navigation Internet ou que sais-je. Ou on peut voir que tu Tu changes tout le temps d'adresse IP parce que tu te connectes avec des tas de VPN ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a derrière la télémétrie, il y a comme ça une espèce de dualité qui est pratique pour améliorer la qualité d'un logiciel, mais qui questionne sur aussi la collecte de données que tu n'as pas spécialement envie de transmettre à d'autres concernant ton utilisation. D'où, à la limite, c'est bien que ce soit là. Si c'est optionnel, c'est-à-dire que tu sois au moins alerté quand tu ouvres un logiciel, que ce logiciel est équipé de fonctionnalités de télémétrie et de te demander si tu autorises ou non le partage de ces informations avec les éditeurs.
Si on en croit les règles du règlement général de protection des données, normalement c'est obligatoire en Europe. Donc,
de poser la question. C'est obligatoire de poser la question.
On va voir un petit peu comment il implémente ça à l'avenir.
Mmh. Ouais. Qu'on soit bien d'accord hein, que c'est obligatoire, selon le RGPD, de poser la question. C'est,
voilà.
C'est pas la télémétrie qui est obligatoire.
Non.
C'est le fait de poser la question à l'utilisateur final s'il accepte ou non de son plein gré de partager des statistiques sur l'utilisation de ses logiciels et de son habitude d'utilisateur ou utilisatrice. De Audacity à la télémétrie. C'est pas mal quand même.
En passant par Muse Group,
oui, tout à fait.
N'empêche que je recommande quand même ce logiciel pour toute personne qui désire commencer à faire quelque chose avec du son. Ça fonctionne sur tous les ordinateurs. Moi, j'ai ma fille de 10 ans qui a commencé déjà à chipoter avec ça pour faire des musiques pour un jeu vidéo qu'elle fait sur Scratch. Donc, ça n'est pas parce qu'on a une interface minimaliste que c'est difficile à utiliser pour n'importe qui. C'est... Une fois qu'on passe un petit peu l'étape justement du design, en fait c'est un logiciel qui est déjà vraiment, vraiment super efficace.
Oui, il équipe d'ailleurs tous les ordinateurs de Radio Campus. 92.1 FM, que vous écoutez à l'instant, chers auditeurs, chères auditrices. Sachez que Audacity est un des logiciels qui se trouve sur tous les ordinateurs du studio.
Et pas que, hein, y a pas que celui-là, mais c'est vrai que dans les logiciels open source que nous diffusons pour Radio Campus, c'est un qui est utilisé.
Ah oui, c'est un de ceux, franchement, que beaucoup d'animateurs utilisent quand ils veulent justement réexporter le fichier dans un format plus léger, ou bien rajouter un générique de début ou de fin, ou bien moduler un peu mieux le son parce que la prise n'aurait pas été bonne. Donc c'est vraiment un outil qui est utilisé professionnellement, à même titre que en termes de loisirs. Voilà, ses capacités sont tout à fait au rendez-vous. Malgré son interface rugueuse, pour le moment.
Ouais, Scratch, moi, du coup, ça me fait penser... on a commencé à donner des cours d'informatique dans une école à Molenbeek, des écoles secondaires plurielles dans le quartier Carvelt. Et du coup, dans les discussions avec les élèves qui ont entre 13 et 15 ans, le prof précédent avait aussi utilisé Scratch. Et du coup, il y avait quelques élèves quand même qui avaient construit des chouettes petits jeux... des chouettes petits jeux avec Scratch. Ils ont montré ça sur le il y a un espace de projection et c'était assez chouette. Vraiment une chouette esthétique. Ça avait l'air marrant. Donc voilà, c'est encore d'autres enfants qui utilisent.
La créativité était au rendez-vous.
Ouais, la créativité et les logiciels libres. Donc évidemment, c'est la créativité optimale. Enfin, il n'y a pas mieux. Si tu sais bidouiller ton outil, c'est de la créativité en plus.
Ouais, tout à fait. Il y a juste un petit truc sur lequel je voudrais peut-être en limite renchérir un peu sur cette histoire de rachat, en fait, de logiciels. C'est toute la question en fait du financement du logiciel libre et de comment ça marche pour en fait payer les gens qui le font. Parce que c'est voilà, il y a des gens qui travaillent sur leur temps libre, qui sont là en amateur, qui font leurs propres outils aussi. Et puis
Et en fait, quand ils font leurs propres outils, c'est souvent pour ça qu'on se retrouve avec une interface tout sec, tout pourri. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent faire avec leurs propres outils, mais pour les autres, c'est moins évident. Mais donc, pour pouvoir passer à des programmes qui soient un peu plus grand public, adressés à plus de monde, il faut qu'il y ait un vrai travail donc, sur cette interface, et donc un travail qui est au final assez... qui doit être rémunéré à un moment donné. Donc c'est intéressant, je trouve que ce logiciel passe dans un mode qui devrait permettre de le rémunérer les développeurs. En comparaison, on peut aussi voir par exemple le logiciel un peu plus, enfin beaucoup plus complexe qui s'appelle Ardour, qui est une donc là c'est vraiment une grosse station de création de son digital audio workstation comme on dit en anglais DAW et qui fonctionne avec un modèle intéressant, enfin je trouve. En fait, donc le logiciel est développé principalement par une personne depuis longtemps et s'est adjoint des collaborateurs et collaboratrices à côté qui venaient de la communauté qui était intéressée par ce logiciel. Et en fait, la manière de le financer, à un moment donné, ils se sont dit, OK, on libère de toute façon toutes les sources du logiciel au public. Et si vous voulez une version compilée directement utilisable, vous passez à la caisse. Donc si tu es à l'aise avec la technique, tu n'as pas envie de payer, tu télécharges les sources sur ton Debian et en une demi-heure, c'est compilé. Je l'ai fait, sérieusement. Mais à côté, si plutôt tu n'as pas trop les mains dans le cambouis et que en fait c'est un outil de travail pour toi, que c'est important, je veux dire, un logiciel pareil, c'est la base, c'est le cœur d'un studio de production sonore. Tu peux aller faire un don pour payer les développeurs et avoir les sources directement compilées pour ta machine sur Linux, Windows ou Apple. Donc ça permet du coup que les développeurs derrière ne soient pas là juste sur leur temps libre et ont vraiment l'entièreté de leur temps consacré à ça, puissent répondre aux problèmes et que ça devienne un véritable... projet professionnel et pas un espèce de truc fonctionnel quand ça vaut. Donc c'est intéressant que quelque part que Audacity essaye de passer à un modèle de rémunération de ses développeurs.
Oui. C'est pas mal ça comme dualité, on va dire, fournir la version compilée payante et de toute façon les sources sont libres. Et de toute façon, les gens un peu plus techniques, au fond, c'est pas compiler un logiciel sur, en tout cas dans le monde GNU Linux, c'est pas très 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 compliqué non plus. Ouais. C'est vrai qu'il faut le faire une première fois pour se rendre compte que oui, il y a 2-3 outils à télécharger sur son ordi.
Ouais, ou Debian a ça dans les repos, par exemple, mais c'est une version un peu datée.
Ouais.
Elle est là. Mais du coup, pour un utilisateur Linux, à la limite, si tu es content avec la version Debian, avec
Ardour est dans les dépôts, par exemple.
C'est une version qui est effectivement deux versions en retard sur la dernière version, qui quand même a vachement évolué. Enfin, je connais ce logiciel depuis une dizaine d'années. Au début, les personnes qui travaillent dans le son, ils renaclaient un peu, ils disaient « ouais, bon... » Maintenant, c'est devenu vraiment un truc qui tourne bien, quoi, et qui intègre tous les plugins possibles, qui intègre du MIDI, de la vidéo, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc de pro.
Et qui a aussi une notoriété professionnelle, hein. Je veux dire, quand on voit toute la communauté qui s'est créée autour, c'est vachement intéressant.
Ouais, et puis même si tu ne sais pas compiler toi-même, tu peux demander à quelqu'un. Ça permet quand même d'avoir accès au logiciel sans qu'on te pousse dans l'illégalité, parce que tu vas devoir aller craquer un truc, parce que ça coûte...
Pour moi, c'est un super business model, pour utiliser un gros mot si on veut, mais en même temps, c'est bien ce que c'est. Entretenir le côté Si tu souhaites en apprendre plus, si tu souhaites t'impliquer, si tu souhaites mieux connaître c'est quoi un outil numérique, bah oui, tu peux utiliser la version qui est là disponible, tu as le logiciel parce que tu en as les sources, et tu peux le fabriquer toi-même sur ton ordinateur en le compilant. Et donc d'apprendre un des mécanismes fondamentaux de l'informatique. C'est tout logiciel est soit un logiciel interprété, soit un logiciel compilé. Et si les gens apprennent, ils maîtrisent au fond, enfin, ils entretiennent un meilleur, je trouve, rapport entre un logiciel et entre l'informatique et eux-mêmes.
Et j'y pense maintenant. En plus, pour le découvrir, il y a Résonance MAO.
Ah oui.
Un groupe à Bruxelles qui travaille autour du son ou qui.
Musique assistée par ordinateur.
MAO. En logiciel libre, qui fait des rendez-vous mensuels. Pour apprendre ou faire connaître des logiciels y travailler avec et qui est en train de discuter pour leur stage d'été, je pense.
Oui, je pense qu'ils ont un site web, un résonance-mao.be, je crois que c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Et oui, de fait, en juillet, en général, si je me souviens bien, il y a comme ça 3-4 jours autour du son, de la musique assistée par ordinateur, hein, MAO voulant dire musique assistée par ordinateur. Et évidemment, y a tout un panel bien large et bien généreux sur les 1001 outils libres existants à disposition. Et les outils libres fonctionnant ou sur Linux ou sur Windows ou d'autres plateformes. Parce que oui, c'est possible de faire de la musique de qualité hobby / professionnel avec des logiciels libres.
Professionnel en slash,
ça j'aime bien. Ouais. Merci Nico.
Eh bien, jeunes gens, je suis navré ou heureux de vous annoncer que nous approchons doucement de la fin. Du coup, si vous avez un petit dernier mot, un petit astuce, un truc, c'est le bon moment pour l'annoncer.
Moi, je reste sur professionnel en slash.
Ouais.
On parlait des MAO, il y a un site vraiment sympa pour toutes les personnes qui sont intéressées à la création de musique en logiciel libre, c'est linuxmao.org, je crois, où sont répertoriés les logiciels de musique et de manière étendue, donc les plugins, etc., mais aussi également une quantité vraiment incroyable de ressources diverses vers des tutoriels, des exemples, des groupes de personnes qui en discutent. Je pense qu'il y a un forum aussi. Donc c'est vraiment une très très bonne ressource pour plonger dans la musique en logiciel libre.
Linuxmao.org, je confirme.
Ouais, c'était cool, hein, merci.
Merci à tout le monde.
Merci Thiers, merci Peter, merci Nico, merci Alm, et moi-même c'était Terry Rock pour Source sur Radio Campus. Non, de point.
FM. Ciao.
Personne. À terminer, nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on